Chers auditeurs et auditrices, bonjour. Notre invité est aujourd'hui Philippe Montillet. Bonjour Philippe Montillet.
Bonjour.
Qui va nous entretenir d'un ouvrage qu'il a contribué à publier, qu'il a contribué à faire paraître, un ouvrage collectif, donc sous la direction de Jean-Michel Legnaud, donc d'un homme de l'université, on peut dire. Et l'ouvrage en question s'intitule donc « Le règne de Louis XVIII, restauration et modernité ». Et il fait suite à un premier livre qui était paru, consacré au comte de Chambord, avec également un collectif d'historiens universitaires ou non. Alors, qu'est-ce qui vous a conduit à, justement, à organiser, enfin plus ou moins organiser avec Jean-Michel Legnaud, ce colloque consacré à Louis XVIII, Philippe Montillet?
Alors, effectivement, il faut repartir des origines. Hein. Notre année 2024, parce que le colloque a eu lieu en décembre 2024, marquait donc l'anniversaire du bicentenaire de la mort du roi Louis XVIII. D'ailleurs, en même temps, ça marquait aussi l'avènement de Charles X. Mais nous savions que sur Charles X, il y avait des grands projets en cours, et ça a été la merveilleuse exposition qui s'est déroulée sur le sacre lui-même au Mobilier National. Et donc, nous avons voulu faire autre chose et nous intéresser à la personnalité du roi Louis XVIII. D'autant plus que cette personnalité nous paraissait très méconnue.
Très
méconnu, car c'est véritablement...
Elle avait même mauvaise réputation.
Et, c'est, et effectivement, vous employez bien, là, finalement, vous mettez le doigt sur ce qui se passe dans la réalité, c'est que c'est un roi sur lequel il y a beaucoup d'a priori. Et par exemple, pour faire gros, si je puis dire, eh bien, c'est le roi d'un retour en arrière, par exemple, alors que, justement, toute la recherche contemporaine, hein, parce que je vais revenir après sur le rôle des universitaires dans cette affaire, toute la recherche contemporaine montre que c'était véritablement un roi très moderne. Et donc son règne a été, comme le sous-titre de notre livre l'indique, celui de la modernité.
Oui, restauration, à la fois de tradition et de modernité.
Voilà, restauration monarchique et modernité, bien évidemment. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on a commencé à travailler ce sujet donc avec le professeur Jean-Michel Legnaud, on s'est rendu compte qu'il y avait un grand nombre d'universitaires qui avaient travaillé là-dessus. Mais malgré tous ces travaux, eh bien, tout n'était pas connu. Il y avait des grandes zones d'ombre. Alors, nous avons réuni une dizaine d'universitaires. Et pour tenir ce colloque, donc je vous le dis, en décembre 2024. Et le but étant, bien évidemment, de continuer par la publication de l'ensemble des communications qui ont été faites à l'occasion de ce colloque. Et le cadre était bien défini, car... souvent, à l'occasion d'un anniversaire de la mort de quelqu'un,
C'était le bicentenaire, d'ailleurs.
Là, c'était le bicentenaire de sa mort.
En 2024.
Voilà, 2024. On a tendance à vouloir faire une chose exhaustive sur toute la vie du personnage. On savait d'ailleurs qu'un autre colloque s'organisait aussi et qui allait reprendre la vie de
Louis XVIII.
De Louis XVIII, depuis sa naissance, si je puis dire, de comte de Provence jusqu'à sa mort. Donc, on a sciemment laissé de côté tout ce qui concerne, si je peux dire, une biographie au sens large,
classique.
Au sens classique du terme. Et on s'est vraiment axé sur le règne et voir ce que, dans l'histoire des institutions françaises et l'histoire de la monarchie française, de la royauté française, ce que ce règne avait pu apporter, justement, en matière de modernité.
Et vous l'avez, on peut dire que vous l'avez décliné en quatre axes.
Alors,
Les institutions, les hommes, l'industrie et la marine, et les arts et...
Voilà.
Et les lettres.
Alors, Bien sûr, on aurait pu peut-être aller encore au-delà, mais on a voulu justement, à travers ce découpage thématique, montrer qu'il s'agissait d'un travail global, en fait, sur la société à l'époque. Hein, pas cette société fractionnée, justement, telle que dans laquelle on a tendance à vivre, où des spécialistes de telle ou telle chose prennent le pouvoir, par exemple, sur l'ensemble de tous les éléments qui forment la société. Là, on a bien montré justement que dans tous ces domaines, il y avait une sorte d'unité hein, qui faisait qu'il y a, le terme est peut-être gros pour un règne qui n'a duré finalement que 10 ans, mais une sorte de civilisation déjà qui se remet en place hein, et qui en avait besoin. Oh. Car lorsque Louis XVIII arrive en 1814, non seulement la France est envahie par les coalisés hein, et toute la France, les troupes étrangères campent sur les Champs-Élysées et dans Paris, hein, mais toute la société a été désorganisée par les troubles révolutionnaires d'abord qui ont duré quand même près de 10 ans, oui. Hein, même si à la fin ça s'est un peu amoindri, mais la terreur, ces milliers de morts, etc. Hein, et la période napoléonienne qui a bouleversé complètement la société et ses cadres, et en particulier avec le Code civil, qui a été un grand bouleversement en instituant l'individualisme contre, par exemple, le droit des familles. Voilà. Donc il y avait véritablement une société à rebâtir dans son ensemble. Et on a essayé de le montrer.
N'oublions pas les 100 jours.
N'oublions pas les 100 jours.
C'était une catastrophe qui s'est ajoutée.
Voilà, une catastrophe, justement, et qui a été la cause de cet envahissement de la France et de l'arrivée des troupes étrangères. Mais je fais là juste un petit...
Une parenthèse,
j'ajoute un élément, c'est que après les 100 jours, finalement, on se dirige vers le traité de Vienne. C'est ce traité de Vienne et le rôle que va justement y tenir la France qui va la remettre dans le concert des nations.
Avec la personnalité extraordinaire de Talleyrand.
Alors, personnalité.
Qui d'ailleurs a contribué à la restauration de Louis XVIII.
Exactement.
On la lui doit directement.
Mais aussi la personnalité de Louis XVIII, car Louis XVIII était véritablement par tous ses autres, par ses cousins, si je puis dire, les autres rois et empereurs, était considéré comme un père. Oui. Et ailleurs.
Et puis, il a été en exil, durant son exil, il a parcouru des milliers de kilomètres à travers toute l'Europe,
à travers tous les pays
d'Europe quasiment.
Voilà. Ah ben,
ça m'a frappé.
Il connaît toute l'Europe. Alors bon, je dirais que
il se fait chasser.
Voilà, ce n'est pas toujours de son plein gré.
Voilà. À Vérone, il se fait chasser par la République de Venise.
Voilà, mais Vérone, justement, il est resté quand même 2 ans à Vérone. Ce sont 2 années extrêmement importantes parce que c'est des années de transition. Et c'est à Vérone qu'il apprend, j'allais dire, l'assassinat, en tout cas la mort tragique de son neveu, le jeune Louis XVII. Et donc, à ce moment-là, selon les lois fondamentales, le roi est mort, vive le roi, il relève immédiatement l'héritage. Et véritablement...
Alors, il faut préciser que c'était le petit-fils hein, de Louis XV,
voilà.
Louis XVI n'ayant pas eu d'héritier.
Si, Louis XVI avait un héritier qui est mort, en dehors de Louis XVII, et de son frère aîné, qui était déjà mort, mais lui, il est mort juste avant la Révolution.
Oui. Hein.
Et cette déclaration de Vérone, donc, que le prince fait en 1795, est véritablement marque déjà le terrain sur lequel il va ensuite continuer son œuvre. Et il ne faut pas oublier qu'il fait démarrer son règne depuis 1795. Hein. Lorsqu'il reviendra sur le trône en 1814, il dira bien que c'est dans cette continuité hein, et il compte depuis 1795 les années de règne. Et c'est vrai que...
Alors, il n'a pas très bonne réputation à l'époque du règne de Louis XVI. On l'appelle donc monsieur, et il
Oui.
semble assez influencé par les Lumières, dit-on.
Voilà. Alors, je ne vais pas
Et
rentrer
c'est quand même
justement.
quelque chose de plus nuancé que ça,
Je ne vais
puisque
pas rentrer dans ce débat parce que
c'est quand même un
justement.
roi de droit. Il s'est voulu un roi de droit divin.
Oui. Non, mais justement, si vous voulez, il y a beaucoup d'éléments qui méritent d'être revus, car trop souvent, on est resté justement sur les a priori de ce prince cadet. Or, on pourrait faire une histoire de France des princes cadets.
Oui.
Je crois qu'il y aurait beaucoup à dire
D'autant qu'il n'était pas aimé
sur leur fidélité. Hein?
de Louis XV. Il n'était pas
Voilà,
aimé du tout de Louis XV.
c'est pour ça que justement, pour ne pas, comment dire, obscurcir le débat, hein, on s'est vraiment, dans le cadre de ce colloque et dans le cadre de cette publication, on s'est vraiment axé sur le règne et sur ce que ce règne
C'est
avait pu
cela.
apporter. Hein. Et c'est pour ça qu'on fait d'ailleurs démarrer avec la première communication qui est due
La
à
déclaration de
Jean-Paul
Saint-Ouen.
Clément. Non,
Non.
même avant la
Avant.
déclaration de Saint-Ouen, c'est-à-dire on part
Oui.
vraiment des prémices qui ont été cette fameuse déclaration de Vérone. Hein.
D'accord.
Et d'ailleurs, pendant un temps, je me suis demandé s'il ne fallait pas faire un volume en ne reprenant que ces grandes déclarations, parce que c'est, par exemple, le texte de Vérone, c'est très compliqué de le trouver actuellement, car il n'y a pas d'édition récente du XXe siècle, ou
Ah oui.
alors du début du XXe siècle. Hein, et donc, ce sont des textes qui mériteraient d'être complètement repris.
Parce
Là, nous en donnons
qu'effectivement,
de larges
il y avait
extraits.
eu d'ailleurs une anthologie de fait des plus beaux textes de Louis XVIII.
Oui,
Mais
sans
c'était
doute.
avant la guerre, il me semble.
Voilà.
Oui.
Hein, et donc, en reprenant le texte de la déclaration de Vérone, le texte de la déclaration de Saint-Ouen que vous étiez en train de citer, et le texte de la charte, on a là un corpus tout à fait intéressant et qui montre bien comment les choses se sont placées, c'est-à-dire à la fois dans la continuité, dans la reprise des institutions anciennes, car comme vous le disiez il y a quelques instants, c'est un monarque qui se considère de droit divin, hein, et justement c'est bien écrit de Vérone, c'est-à-dire que c'est de là qu'il tient son pouvoir, par cette hérédité, hein, mais
Mais en même temps, il octroie la charte.
en même temps, voilà, il octroie
Alors,
il
j'ai vu
octroie la charte.
que au sein de ce livre, on a repris enfin, le terme en disant non, non, il donne la charte. Et parce que le terme d'octroyer est
Ah ben,
plutôt un
c'est
terme immédiat.
péjoratif.
Oui.
C'est péjoratif.
Oui.
Il donne la charte, mais ça fait
Oui.
partie des devoirs du roi
Oui.
de donner une charte, finalement, à ses sujets. Hein. Le roi et le peuple ne peuvent pas, dans son esprit, se concevoir séparés, en fait. Hein. C'est là où il est véritablement dans la tradition. Hein. Le roi et ses peuples forment un tout. Hein. Voilà. Une société véritablement organique qui va de la tête jusqu'au plus humble des sujets à qui, justement, il veut donner un certain nombre de droits et surtout, un peu comme l'avait fait Henri IV ou d'autres rois précédemment, à qui il veut qu'on puisse donner les moyens de vivre, de s'épanouir et de progresser socialement. Parce que
Il a
c'est.
voulu reprendre des éléments évidemment de l'Ancien Régime, mais également de l'héritage révolutionnaire, disons, la méritocratie,
Voilà.
bon, un certain nombre de points, la liberté, plus ou moins réelle d'ailleurs, d'expression. Enfin
Oui. Ah ben, là-dessus, Chateaubriand a de très belles pages.
oui.
Après, justement, toute la période de Napoléon, où la presse et l'opinion a été brimée, où les opinions ne pouvaient pas s'exprimer, avec l'arrivée de Louis XVIII, les opinions peuvent s'exprimer. C'est le roi de la liberté. Hein. Donc, c'est surtout ces points qu'il
Messieurs,
y a.
lorsque pour la première fois je viens dans cette enceinte, m'environner des grands corps de l'État, des représentants d'une nation qui ne cesse de me prodiguer les plus touchantes marques de son amour, je me félicite d'être devenu le dispensateur des bienfaits que la divine Providence daigne accorder à son peuple. J'ai fait avec la Russie, l'Autriche et l'Angleterre et la Prusse une paix dans laquelle sont compris leurs alliés, c'est-à-dire tous les princes de la chrétienté. La guerre était universelle, la réconciliation l'est pareillement.
Voilà.
C'était en introduction à la charte.
Exactement. Et là, voilà, on se place véritablement dans un roi qui reprend toute sa place dans le concert des nations et qui est reconnu par tous et qui redonne à la France, après cette terrible défaite et déroute de Waterloo, qui lui permet...
Il lui donne des nouvelles institutions.
Voilà.
On devrait presque plus parler d'institutions que de constitutions, d'ailleurs.
Oui, bah, bon, le terme constitution, à l'époque, oui. était très à la mode. Oui. Là, comme je dis toujours, dans les constitutions, c'est ce qu'il y a dedans. Hein. Pour moi, la France a toujours eu une constitution. Les lois fondamentales qui décrivaient la manière dont les règnes pouvaient se succéder à travers la primogéniture, c'était une constitution.
Bien sûr. Mais disons que c'était une constitution en mouvement.
Alors,
c'est pour ça que je préfère parler des institutions dans ce régime.
D'ailleurs, c'est le grand problème des constitutions modernes, on le voit bien avec celle qui nous gouverne depuis 1958, c'est que justement le mouvement est assez compliqué, parce que soit on reste à l'esprit des institutions, et alors les choses demeurent un petit peu figées, soit justement elles sont tellement en mouvement qu'on ne s'y reconnaît plus. Hein, parce que notre constitution était faite quand même pour une certaine souveraineté, hein, et à l'heure actuelle,
l'abandon du quinquennat a complètement détruit l'esprit.
Alors, le quinquennat a détruit effectivement
l'autorité
l'esprit
du président de la République.
Voyez tout ça. Et alors, du temps du règne de Louis XVIII, les choses, je dirais, ont plutôt évolué dans le bon sens. Parce que laquelle était la question ?
Il est très sage parce qu'il n'a pas en renvoyer tous les grands corps de l'État, c'est-à-dire qu'il a gardé les préfets.
Voilà, mais je vais revenir sur les préfets, parce
c'est
que
très
justement,
important.
C'était le thème d'un des chapitres du livre. Mais ce qui est intéressant à voir, c'est justement comment la charte donc, a été vécue. Et c'est pour ça que le professeur Lachiez a abordé le problème du parlementarisme, car la question c'est savoir si le pouvoir est aux mains du roi ou aux mains finalement du gouvernement. Et le professeur Lachiez l'a fait une analyse extrêmement fine, en montrant justement comment les choses ont pu évoluer et ont évolué dans le meilleur sens finalement de ce que l'on peut attendre d'un État. Alors, j'en reviens au préfet que vous venez d'évoquer. Là, voilà, c'est véritablement un moment où le rôle du roi Louis XVIII a été important, parce que...
On parle d'une seconde naissance du corps
préfectoral. Mais voilà, seconde naissance, hein, parce que ce qu'avait créé Napoléon Bonaparte, c'était en fait un corps préfectoral, je dirais, un peu policier. C'était une sorte d'encadrement. Et là, l'esprit change tout à fait, parce que effectivement, Louis XVIII n'a pas envie de revenir aux provinces. Ça n'aurait d'ailleurs pas de sens, parce que les choses ont beaucoup évolué. Donc, il reste dans le cadre départemental. Il maintient ses préfets, mais il en fait des agents d'un pouvoir qui amène le progrès en matière sociale, en matière
éducative. Ce
ne sont pas que des policiers.
Non.
Donc l'esprit est radicalement, est radicalement différent, et c'est ce corps préfectoral nouvelle mouture qui va véritablement faire que cette restauration soit aussi, hein, selon le mot, je crois que c'est Lamartine qui a dit ça, une renaissance, en fait. Hein. On est là dans le cadre d'une renaissance. Les institutions, elles sont faites pour évoluer. Hein. En France, les institutions, elles ont toujours évolué. La monarchie de Louis XIV n'est pas celle de Saint-Louis. Hein. Donc, eh bien, avec Louis XVIII, c'est pareil.
Pierre Gaxotte se plaît à le souligner, ce triomphe de l'État centralisateur rompt avec les mœurs de l'Ancien Régime. Mais c'est une centralisation qui n'est pas forcément perverse, justement.
Voilà.
Puisqu'elle contribue, finalement, à faire évoluer l'État, et pas seulement, et d'un point de vue même du développement, enfin, du progrès, des techniques, du développement. Des arts.
Des arts. Alors, les arts, nous avons consacré justement dans ce volume plusieurs chapitres justement sur les arts. Car là aussi, on part d'une situation tout à fait troublée au moment de la Révolution. On peut dire que les arts, pour faire court, c'est le vandalisme à l'époque. Hein, ou alors, c'est plus une question de mode quand. Napoléon va recréer une sorte d'art, mais qui est plus une mode, je dis, qu'un vrai art, c'est-à-dire qu'il va plaquer un peu d'égyptien sur du décor classique. Hein. Tout ça ne forme pas véritablement non. un art qu'on va retrouver justement au moment de la Restauration, oui. où Louis XVIII va favoriser cette synthèse qui va être effectuée entre l'art néoclassique. Hein, qui reprend ses droits, et lorsque nous allons faire une présentation dans 15 jours de l'ouvrage, on a eu la chance d'avoir pour cadre, de pouvoir avoir pour cadre la chapelle expiatoire à Paris. Hein, et là, on est véritablement dans un monument néoclassique,
oui. Ah oui, complètement, hein, oui.
un monument néoclassique qui va se développer. Mais à côté de ça, en parallèle à tout ce néoclassicisme, c'est le début de du romantisme.
Oui. Hein,
et
oui.
tous les grands auteurs qui, quelquefois, changeront un peu d'idée, mais Lamartine, Victor Hugo sont du côté oui. du roi Louis XVIII.
Oui.
Hein, il y a là véritablement un renouveau qui se fait et qui existe aussi dans les autres...
Le mobilier restauration est un mobilier qui a vraiment beaucoup de charme.
Enfin, beaucoup de charme.
Beaucoup moins froid que celui, évidemment, de l'époque napoléonienne ou même de l'époque précédente.
Enfin, qui reste un peu oublié,
oui.
alors que le mobilier restauration, il y a là toute une mode.
Oui. Hein.
Sans doute, vous rappelez-vous d'une très belle exposition qui avait porté sur ce thème, qui avait été montée au musée de Sceaux il y a 15 ou 20 ans maintenant, hein, justement sur le mobilier et l'apport,
oui, oui.
Et entre autres de la duchesse de Berry, par exemple, oui. qui avait fait énormément pour que les ébénistes, les artisans de divers corps de métier puissent travailler et épanouir véritablement leur art. Hein, donc, nous avons donc... C'est pour ça que tout à l'heure,
il a relancé aussi la musique. Hein.
Il a relancé la musique.
Oui, oui. Hein. Parce qu'il n'y avait plus de création... l'opérette, les opérettes classiques françaises ont démarré à cette époque-là.
Exactement. Et puis, je dirais, la grande musique, hein,
oui.
Cherubini, etc. On fait appel à des grands. Et là aussi, nous avons voulu le montrer à travers un chapitre sur la musique.
Boieldieu, non ?
Oui,
oui,
oui.
Aussi.
Donc, c'est véritablement, quel que soit l'aspect que l'on aborde, tout à l'heure, vous avez dit qu'on avait présenté ça sous forme de 4 chapitres, mais on aurait pu faire 6 ou 7 ou 8. Hein. Et c'est bien dit par le professeur Legnaud dans sa conclusion, eh bien, tout ça forme un ensemble harmonieux qui est véritablement celui d'une société qui renaît à travers tout.
Alors, on peut dire, je pense que Philippe Montillet... Donc, vous écoutez Radio Courtoisie, bien entendu, et qu'il faut, bien entendu, encourager. Et je vous invite donc à écouter le petit bobino à cet effet.
Radio Courtoisie, libre, sans publicité, sans subvention. 1,5 million d'auditeurs par semaine, des milliers d'écoutes en ligne. de 13 ans à 99 ans, vous nous écoutez. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter en ligne. Désormais, les podcasts de Radio Courtoisie, les émissions de Radio Courtoisie viennent à vous gratuitement. Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr.
Chers auditeurs et auditrices, nous nous retrouvons donc avec Philippe Montillet pour évoquer le règne de Louis XVIII, le vrai visage de Louis XVIII, autour de ce livre qui est paru donc, il y a peu chez Via Romana, intitulé d'ailleurs « Le règne de Louis XVIII, restauration et modernité ». Nous évoquions donc des aspects de la constitution, on peut dire, française à l'époque de Louis XVIII, qu'on appelait à l'époque donc charte. Mais cette charte constitutionnelle de 1814 est le fruit et le développement d'une déclaration dont on a parlé tout à l'heure, celle de Vérone, mais surtout celle de Saint-Ouen, le 2 mai 1814, où il est précisé que le Sénat et la Chambre seront composés des députés et des départements, évidemment. L'impôt sera librement consenti, la liberté publique et individuelle assurée, la liberté de la presse respectée, sauf les précautions nécessaires à la tranquillité publique. La liberté des cultes garantie, les propriétés seront inviolables et sacrées, la vente des biens nationaux restera irrévocable. Les ministres responsables pourront être poursuivis par une des chambres législatives et jugés par l'autre. Les juges seront inamovibles et le pouvoir judiciaire indépendant. La dette publique sera garantie, les pensions, grades, honneurs militaires seront conservés, ainsi que l'ancienne et nouvelle noblesse. La Légion d'honneur dont nous déterminerons la décoration sera maintenue, tout Français sera admissible aux emplois civils et militaires. Enfin, nul individu ne pourra être inquiété pour ses opinions et ses votes. Donc, on peut dire tout de même qu'elle fait preuve d'un certain libéralisme, cette
charte. Tout à fait. Tout à fait, et on pourra encore s'en inspirer de nos jours sur bien des points. Hein, donc, effectivement, c'est pour ça que ces volets, au lieu d'avoir des idées toutes faites sur ce règne, il était intéressant, et il est intéressant pour tous les lecteurs potentiels, de pouvoir revenir aux sources. Hein, parce que trop souvent, à l'heure actuelle, on est dans la culture du superficiel, et on sort un slogan d'un livre, on sort une phrase, et on croit qu'on a tout compris. Moi, je suis pour essayer de retourner toujours aux sources, à l'origine, et là, les textes fondamentaux, donc ça, ce sont les textes de Louis XVIII, hein, ce sont ceux qui ont cadré son pouvoir pendant 10 ans, on a tout intérêt à venir les revoir, les analyser, les comprendre, et peut-être, pour certains, voir ce qu'ils peuvent encore apporter à la société contemporaine, à la société actuelle, hein, quand on sait qu'on n'est quand même pas dans le haut de notre société.
Donc vous considérez que Louis XVIII a été un vrai chef de l'État, avec des prérogatives, des pouvoirs,
bien sûr,
un petit peu du type de celui d'un président de la République actuel, ou un petit peu moins.
Non, je pense que, si vous voulez, on ne peut pas comparer.
L'initiative des lois ne revenait quand même pas.
On ne peut pas comparer les deux choses, hein, mais c'est un vrai pouvoir. C'est un vrai pouvoir et il l'a exercé. Simplement, ça ne l'intéresse pas.
Quand on dit le roi règne et ne gouverne pas, n'est pas tout à fait vrai.
Ce n'est pas tout à fait vrai. Simplement, il ne rentre pas dans les détails du gouvernement. Ça, c'est le gouvernement qui doit le faire. Il fixe un certain nombre de lignes, hein, le chemin, si je puis dire. Voilà. Mais il n'a pas à rentrer. Ce n'est pas son rôle et ce n'est pas. Il n'aime pas ça, en fait. Hein, voilà. Donc, c'est pour ça qu'il s'entoure de tout un personnel.
Oui, hein.
Vous parliez tout à l'heure de la seconde naissance du corps préfectoral. Oui. Hein, ces préfets sont là. mais pour mener la modernisation, pas pour faire un encadrement contre les libertés.
On a parlé des technocrates de Louis XVIII.
Voilà, exactement, oui, parce que...
Parce qu'il s'est appuyé sur un certain nombre de grandes intelligences.
De grandes intelligences.
De grands serviteurs d'État.
Et qui ont justement créé la France moderne. Hein, en matière de route, on le voit, en matière de... Il continue ce qui avait été créé au XVIIIe siècle avec les ponts et chaussées, les eaux et forêts, c'est-à-dire tout ce qui structure véritablement le territoire, eh bien, il lui donne, à travers un certain nombre de spécialistes, de nouveaux moyens sur les routes, c'est très important. Et puis, alors...
Ce qui est incroyable, c'est qu'on dit que de manière étonnante... On réussit à la fois à se réclamer de Turgot et de Colbert.
Voilà. C'est toujours l'esprit de synthèse qu'il faut, qui est celui qui doit présider finalement aux grandes institutions. Alors, un autre domaine où la restauration a été très.
Une sorte de libéralisme national.
Une sorte de libéralisme national, si vous voulez, ça a été les canaux. Hein, parce que là, c'est avant les chemins de fer, le grand développement des transports, ça permet de transporter du pondéreux, ce sont les canaux et qui vont commencer à se développer sous le règne de Louis XVIII. Donc, c'est véritablement... c'est ça qui est admirable, c'est qu'on sort d'une période très troublée. On avait les troupes ennemies qui campaient dans Paris, et d'un seul coup, parce que c'est une énergie nouvelle qui est redonnée par le roi et par son gouvernement, la France va redémarrer, va renaître. Hein. Et c'est pour ça que, par exemple, on consacre aussi un de nos chapitres au démarrage de la sidérurgie.
Oui.
Parce que la France industrielle et la France économique en général a été complètement bloquée à l'époque de l'Empire, en particulier avec le blocus continental.
Et effectivement, on explore des mines de charbon.
Il y a là quelque chose de... Il faut redonner un nouveau souffle. Hein, et ça va être justement une partie de la politique de Louis XVIII. C'est 10 ans qui sont extrêmement féconds, très intéressants à voir,
et alors,
à
étudier.
Il y a
quelques figures clés, on peut dire, qui permettent de mener cette politique. Il y a notamment la figure de Becket. Becket qui adhère à la Révolution, mais quand il découvre ce qu'est la guerre et la radicalisation politique, il bascule vers le roi. Et c'est lui qui va contribuer à rédiger la charte.
Oui, parce que les gens les plus conscients, finalement, ont vu les limites du régime précédent. Hein. Donc, ils ont envie de...
Caché pendant la terreur, membre des 500, il contribue à définir une option royaliste constitutionnelle sous le directoire. C'est alors que s'organisa avec Royer-Collard, quatre maires, de Quincy, Vaublanc, autre personnage très important, un petit comité pour préparer les bases d'un rapprochement entre les Bourbons et la nation. Cette agence de Paris prit contact avec Louis XVIII, qui lui accorda sa confiance. Selon Beugnot, le groupe devait préparer une restauration du trône qui fut non le triomphe d'un parti, mais le signal de la réconciliation de tous les Français si longtemps divisés. Très hostile au comte d'Artois, ils refusèrent en juin 1800 de s'inféoder au ministère britannique et dénoncèrent ce qui aurait été un comité anglais. C'est très important de voir justement qui a été auprès de Louis XVIII donc pour mener cette nouvelle politique de restauration et qui s'étend également au domaine de la marine.
Voilà. Alors là aussi...
La marine était totalement détruite par la Révolution.
Détruite par la Révolution et par...
Et même par Napoléon, qui en tout cas ne l'a pas utilisée.
Bah, c'est-à-dire qu'après l'échec de Trafalgar, et tout ça, les choses sont allées un peu à volo, si on peut dire. Et la marine, au siècle précédent, a été le grand œuvre de Louis XVI. et de Louis XV.
C'était la plus belle marine
qui avait restauré, qui avait fait la marine, ce qu'elle est devenue à la fin du siècle, et ce qui avait permis d'ailleurs, pour la première fois, de contrer les Anglais, et ce qui a permis la naissance des États-Unis. Les Anglais ayant été coupés finalement par la marine française de leur base. Et quand on parle des combats de la guerre d'indépendance, la moitié de ces grands combats sont des combats maritimes. Hein, voilà. Donc cette marine, comme vous venez de le souligner, ne s'est pas relevée
du portal.
Ne s'est pas relevée de l'Empire, et il a fallu recréer un peu de toutes pièces. Et là, l'article...
Il était armateur bordelais, pas étonnant, parce que
la
Gironde était bien à Bordeaux.
Du chercheur Martin Mott est très intéressant, car il montre les différentes étapes. Hein, parce qu'au début, il y a un petit flottement. On ne sait pas très bien... le roi ne sait pas très bien...
Il ne faut pas oublier que c'est l'époque au début où il y a le fameux naufrage de la Méduse.
voilà. Hein, mais il y a donc...
Et puis il n'y a pas de budget naval.
Il n'y a pas de budget. Et... On essaye de rappeler des officiers qui avaient été limogés au moment de la Révolution. Mais bon, des gens qui n'ont pas vogué depuis 25 ans, ce n'est pas obligatoirement les meilleurs et tout. Donc il a fallu recréer. Et Martin Mott montre bien comment, là aussi, il y a une politique d'ensemble qui se met en place avec...
L'action du baron Portal ne se limite pas à un volet budgétaire.
Exactement.
Il met en place une doctrine dont continuent à s'inspirer ses successeurs. Celle-ci consiste à se donner les moyens d'une forme de dissuasion navale vis-à-vis de l'Angleterre, que la marine française ne pouvait clairement pas vaincre, mais à laquelle elle pouvait infliger des coups assez graves pour la dissuader de contrecarrer les vues de Paris sur les dossiers, ne remettant pas en cause les intérêts existentiels de Londres.
Voilà.
Donc, c'est là où on voit le mélange de diplomatie.
De diplomatie.
Et de puissance.
Voilà, un côté budgétaire qui va permettre de recréer de nombreux navires. Hein,
la France puissance maritime.
Montre bien le nombre de constructions navales de l'époque. En même temps... ce qui n'était pas dit là, dans la citation que vous venez de donner, mais au-delà du corps de doctrine, une école navale quasiment va commencer à naître et à se mettre en place, donc pour former les officiers de marine et essayer de faire un lien entre, ou un lien du moins, une heureuse balance entre ceux qui sont chargés de l'administration de la marine, justement, qui vont travailler sur les arsenaux, sur les budgets, etc., et ceux qui ont la fonction militaire, les chefs d'escadre. Hein, et c'est très, très important. Il faut éviter que les uns ou les autres prennent la première place. Martin Mott explique bien tout ça et montre comment cette marine, en l'espace de quelques années, parce que tout ça, nous sommes dans un espace-temps très
limité,
réduit, très limité.
C'est 10 ans, le règne de Louis
XVIII. Avant la fin de ces 10 ans, eh bien, il y a la campagne d'Espagne, il y a tout ce qui est fait dans la Méditerranée pour la libération de la Grèce ou d'autres choses où la marine française va avoir son rôle et qui amènera... Bien sûr, là.
Et cette politique Louis XVIII, sera poursuivie par Charles X.
Par Charles X, voilà.
Très totalement.
Et qui amènera la prise d'Alger en 1830. Hein. Oui. Mais elle n'aurait pas pu se faire s'il n'y avait pas eu une marine. C'est la marine qui a supporté tout le poids de cette campagne. Donc, vous voyez, quel que soit le bout par lequel on prend la question de ce règne, et c'est pour ça que je reviens à ce que je disais tout à l'heure, un règne particulièrement fécond, parce qu'il l'est dans tous les domaines.
C'est d'ailleurs l'époque où le... Ah oui, non c'est... je ne sais plus si c'est... Il était mort en 1825. Mais bon, c'est l'époque où Haïti prend son indépendance.
Ah oui.
En payant une somme à l'amiral de la Gravière.
Voilà, là c'est une autre histoire plus compliquée, et surtout par les conséquences qu'elle a pu avoir.
On a beaucoup de détails sur l'expédition d'Alger, il a voulu déborder un petit peu le règne de Louis XVIII, l'auteur de La politique navale, oui. M. Motte.
Oui, il donne des effectivement, parce que ce n'est pas véritablement sur l'expédition en Algérie, mais c'est sur justement les moyens qui ont pu être réunis pour monter des grandes expéditions. C'est ça qui est intéressant.
Oui, oui.
Voir, c'est, toutes ces politiques ne sont pas des politiques conjoncturelles, en fait. Hein. Elles veulent être véritablement structurelles, et comme vous l'avez dit dans la citation que vous avez donnée tout à l'heure, il s'agit de créer une marine de dissuasion. Hein, et comme on ne peut pas s'opposer de front à la marine britannique, eh bien, on essaye en tout cas de pouvoir la contenir. C'est-à-dire qu'il y a véritablement un objectif qui est donné.
Qui est donné.
Je crois que cette notion d'objectif est très importante.
On pourrait parler d'une géopolitique.
Voilà, en matière internationale, il y a sous Louis XVIII... Hein, et à partir du traité de Vienne, il y a une véritable géopolitique qui se met en place. Mais on la trouve aussi en matière économique. Hein, il y a là véritablement cette volonté d'assurer un bien commun à la population, donc avec un renouveau économique, renouveau des premières industries, qui vont pouvoir, qui
Alors,
vont pouvoir
est-ce
s'épanouir.
Est-ce que vous voulez dire un mot de... la grande réforme de l'Institut, parce que là, il y a été un petit peu à la hussarde, notre ami
oui,
Louis ben, XVIII. Il a quand même éliminé des personnages. Enfin, il a oui, fait démissionner, obligé à démissionner un certain nombre de savants, d'ailleurs, de la Révolution, ce qui m'a un peu étonné.
Voilà, c'est-à-dire que là, c'est un article qui a été rédigé par... notre ami Éric Peuchot, et qui montre bien, là aussi, cette académie, reprenons les choses par le bout. Ça a été créé par le roi, et c'était une des grandes institutions de l'Ancien Régime. Napoléon Bonaparte en a fait une institution à son pied. Hein. Et donc, il fallait la recréer quelque chose, et l'idée de cette institution a tout de suite été acceptée par le roi. Simplement, là encore, il faut la replacer dans son objectif. Et donc, les règlements vont être repris de manière à ce que ça concourt véritablement, que ces académies qui sont réorganisées donc totalement autour de l'Académie française et des autres instituts, bien qu'elles concourent à la grandeur de la France. Alors, comme toujours, lorsque il y a des réformes, il y a un certain nombre de gens qui sont exclus. Mais ce qui est intéressant dans l'article d'Éric Peuchot, c'est qu'il montre bien comment tout cela s'est fait progressivement, j'allais dire règlement par règlement, de façon à ce que les choses évoluent.
Mais il y a une très belle citation au sein du livre de l'ordonnance de 1816 qui évoque cette question. Je vous propose de la lire.
Oui.
Donc, Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous ceux que ces présentes verront, salut. La protection que les rois, nos aïeux, ont constamment accordée aux sciences et aux lettres nous a toujours fait considérer avec un intérêt particulier les divers établissements qu'ils ont fondés pour honorer ceux qui les cultivent. Aussi n'avons-nous pu voir sans douleur la chute de ces académies qui avaient si puissamment contribué à la prospérité des lettres et dont la fondation a été un titre de gloire pour nos augustes prédécesseurs. Depuis l'époque où elles ont été rétablies sous une dénomination nouvelle, nous avons vu avec une vive satisfaction la considération et la renommée que l'Institut a mérité en Europe. Aussitôt que la divine providence nous a rappelés sur le trône de nos pères, notre intention a été de maintenir et de protéger cette savante compagnie. Mais nous avons jugé convenable de rendre à chacune de ces classes son nom primitif afin de rattacher leur gloire passée à celle qu'elles ont acquise et afin de leur rappeler à la fois ce qu'elles ont pu faire en ces temps difficiles et ce que nous devons en attendre dans les jours plus heureux. Enfin, nous sommes proposés de donner aux académies une marque de notre royale bienveillance en associant leur établissement à la restauration de la monarchie et en mettant leur composition et leur statut en accord avec l'ordre actuel de notre gouvernement.
Voilà.
Oui, c'est fort bien exprimé.
Exactement, fort bien exprimé. Les choses sont claires. Ça participe au mouvement d'ensemble.
Ça n'est plus on n'est plus là pour nommer des copains, si j'ose dire.
Voilà. Il y a toujours cette notion d'unité qui est extrêmement importante. C'est ça qui fait véritablement une société, qui fait une civilisation.
Je ne puis me lasser de vous répéter qu'il s'y manifestait un reste d'esprit révolutionnaire dont il était urgent d'arrêter l'influence.
Voilà. Adieu Lavoisier. On reprend les choses dans un souci d'une culture générale et élévatrice du pays. Donc, vous voyez, un ensemble à travers ces presque 400 pages, voilà, un ensemble qui me paraît extrêmement cohérent sur ce règne, et je pense que tous ceux qui vont acquérir ce livre et qui vont le lire, eh bien, seront heureux de découvrir l'importance de ces 10 ans, 1814-1824, du règne de Louis XVIII, hein, qui est souvent un petit peu occulté, et qui là retrouve, à travers ces différents chapitres, tout son relief.
Oui, et on peut dire que cette charte donc est bel et bien une constitution, puisqu'il a employé lui-même ce terme. Et le roi la qualifie de libre et monarchique à la fois. Je trouve que c'est assez bien vu par rapport à cette époque où, justement, on parlait tant de l'Europe éclairée. Il ajoutait « Nous avons dû nous souvenir aussi que notre premier devoir envers nos peuples était de conserver, pour leur propre intérêt, les droits et les prérogatives de notre couronne. » Et fort intelligemment, Louis XVIII donc poursuit, « Quand la violence arrache des concessions à la faiblesse du gouvernement, la liberté publique n'est pas moins en danger que le trône. Nous avons donc cherché les principes de la charte dans le caractère français et dans les monuments vénérables des siècles passés. Ainsi, nous avons vu dans le renouvellement de la pairie une institution vraiment nationale qui doit lier tous les souvenirs, toutes les espérances, en réunissant les temps anciens et modernes. »
Voilà. Comme ces choses sont bien dites. Et là, nous sommes dans le préambule. Hein. Donc,
la pairie, c'est le Sénat.
On peut dire que c'est le Sénat, parce que c'est pas l'ancienne pairie.
La Chambre des Pairs.
C'est pas l'ancienne pairie de l'ancien régime, hein, qui est complètement renouvelée. Et ça, on le verra surtout au moment du sacre de Charles X, hein, où les pairs qui vont entourer le roi, c'est la reprise de ce qui était fait jusqu'au sacre de Louis XVI, mais les pairs n'ont pas la même origine. Hein, là, on va retrouver des sénateurs ou d'autres. Et il y a une très belle phrase, me semble, justement, dans la conclusion qui est de Legnaud, qui fait la conclusion générale, qui montre combien ce règne est règle la tension qui peut exister toujours entre la sagesse des rois et la volonté des peuples.
Voilà. Oui.
Ça permet cette synthèse, et donc c'est ça qui fait
évoluer. Puis il s'agit de réconcilier les Français.
Il s'agit de réconcilier, nous ne sommes pas du tout dans une société, fractionnée, hein, comme on le dit de nos jours, on n'est pas à la société des archipels, là, vraiment. Le roi, et je crois toute l'élite d'ailleurs, à l'époque, l'élite la plus active, et ceux qui vont devenir justement les préfets ou les grands acteurs, eh bien, veulent aller dans le sens d'une unité, car c'est de cette unité que véritablement peut émerger une société qui retrouve les chemins de, des progrès et d'une certaine aisance financière.
Tout en étant bien pénétré de son autorité légitime. Voilà. Et je trouve que le mot cité de, encore là, encore du roi, résume admirablement ce double équilibre qu'il avait su trouver. Le roi finit son propos par ce rappel de l'autorité royale, de la charte constitutionnelle qu'il avait donnée, avec une nouvelle solennité devant les autels de celui qui pèse dans la même balance les rois et les nations.
Voilà.
Donc c'est une forme de régime, on peut dire, tout à la fois monarchique et, voilà, et démocratique, enfin une forme de démocratie.
Oui, alors sur
même
le
si
terme,
elle était limitée,
sur le, voilà, sur le terme de démocratie, hein. Voilà, il faut,
il faut gagner pas, de l'argent pour pouvoir.
Il n'y a pas de pouvoir démocratique au sens moderne du terme, hein, puisque au début, je crois qu'il y a 100 000 électeurs, donc nous sommes dans des dans un système tout à fait.
Il faudra attendre très longtemps.
Voilà. Mais je dirais que là-dessus, on ne sait pas non plus, nous, jusqu'où ça va aller. Hein, parce que jusqu'en 1945, les femmes étaient exclues, c'est-à-dire quand même la moitié de la population française, ce qui fait quand même une démocratie à 50%.
Oui, effectivement. Hein,
c'est avec Giscard d'Estaing que ça va être ouvert entre l'âge de 18 ans et 21 ans. Donc, et maintenant, quelquefois, on parle de 16 ans, etc. Oui. C'est-à-dire que tout ça... Et là-dessus, je crois que malheureusement, il faut être un peu sévère, c'est que plus on élargit, en fait, moins la représentation est juste et moins le pouvoir est, existe véritablement aux mains des électeurs. Donc,
il ne faut pas oublier, est-ce que vous voulez, pour les quelques minutes qui restent, les cinq minutes qui nous restent, évoquer quelques, bon, la figure de Chateaubriand ou de les premiers ministres, enfin, ont-ils été... est-ce que certains ont été particulièrement remarquables ? Parce qu'on cite souvent Villèle qui a fait le pont entre Charles X, enfin Louis XVIII et Charles X, mais que l'on considère comme un conservateur qui a un peu détruit l'héritage de Louis XVIII.
Oui, bah, c'est-à-dire que c'est toujours, toujours difficile. Je préfère justement me placer du côté de grands auteurs comme c'était bien que vous citiez Chateaubriand, car je crois que lui-même a été
Talleyrand, Chateaubriand
voilà un peu un symbole de cette période. Sa pensée, d'ailleurs, on le voit dans les Mémoires d'Outre-Tombe, a évolué, mais lui-même est une personnalité extrêmement complexe, hein,
c'est vrai.
Sa pensée est compliquée, mais il y a cette fidélité qu'il a eue au Bourbon qui mérite d'être toujours, toujours rappelée, car il les a suivis jusqu'à l'exil de 1830. Hein, et après, il a reporté toute son, son énergie et sa fidélité au jeune comte de Chambord que vous évoquiez tout à l'heure dans votre introduction. Ce que je voudrais dire, parce que ça peut intéresser quelques-uns des auditeurs, du moins parisiens,
de vous rejoindre.
Voilà. Mais le livre, surtout, va être présenté.
Oui, il sera
donc
présenté.
Je n'ai plus mon papier sous les yeux, mais je vais le retrouver. Le 28 mai, c'est un jeudi.
Oui.
Hein, et c'est la chapelle expiatoire, donc un des lieux.
Alors indiquez-nous où elle se trouve.
Voilà, la chapelle expiatoire se trouve square d'Anjou, rue Pasquier. Hein, et à 18h30, il y aura la présentation du livre par le professeur Jean-Michel Legnaud, un petit intermède musical, etc. On va essayer de faire les choses bien. Et ça permet comme ça à tout le monde de venir écouter et partager quelques idées. Mais comme il s'agit d'un lieu privé, un monument historique...
C'est organisé par l'Institut de la Maison de Bourbon.
Alors, c'est organisé par l'Institut de la Maison de Bourbon.
Et il faut s'inscrire.
Et il faut s'inscrire, exactement. Donc, en envoyant un mail à la messagerie électronique, contact.royaute, pour royauté, on n'a pas d'accent, voilà, royaute, @orange.fr. Hein, parce qu'on ne pourra rentrer que si on est sur, sur la liste. Donc à 18h30, le 28 mai, et le livre sera
aussi... Il y aura une belle évocation.
Le livre sera en vente. Hein, j'espère que le directeur des éditions Via Romana sera présent.
D'ailleurs, paradoxal, c'est que ce beau livre, donc... qu'on peut se procurer auprès de l'Institut de la Maison de Bourbon, oui. ou auprès de tous les libraires, bien aspirés, est donc vendu 24€, et que sa couverture est constituée d'un magnifique tableau, on peut dire d'un Louis XVIII en majesté, puisqu'il est, il est recouvert de son manteau de sacre.
Exactement.
Sacre qu'il n'a pas pu véritablement vivre, puisqu'il s'estimait trop âgé.
Voilà, c'est ça. Et... C'est pour des raisons en fait physiques et j'allais dire matérielles que le sacre n'a pas eu lieu, mais le sacre a été préparé.
Oui.
Et c'est ce qui explique que Charles X ait pu être sacré aussi rapidement. Car en fait, toute la cérémonie était déjà prévue et organisée. Et là, nous avons été très contents de pouvoir
bénéficier. C'est grâce à vous que j'ai pu avoir cette très belle couverture.
Un très beau tableau et c'est un clin d'œil justement à l'histoire et au traité de Vienne dont j'ai parlé à plusieurs reprises. Puis ce tableau se trouve dans la résidence de l'ambassadeur d'Allemagne à l'heure actuelle. Donc, vous voyez, on est non seulement dans un roi qui a restauré. Restaurer la France, mais un roi aussi qui a véritablement sa place dans le concert européen tel qu'il pouvait s'entendre au XIXe siècle.
Ce fameux congrès de Vienne qui a été véritablement, qui a marqué le triomphe de Talleyrand en limitant les dégâts causés par l'Empire. Les dégâts effrayants, puisque la France, il ne faut jamais l'oublier, a dû payer pendant des années des dommages de guerre.
Et lorsque tous les rois se rencontraient, que ce soit celui d'Allemagne ou le tsar de Russie, considéraient le roi de France, qui restait assis alors qu'eux étaient debout, comme véritablement le grand
et vous savez que
souverain de l'Europe.
De Talleyrand, c'est d'avoir organisé une gastronomie extraordinaire ce jour-là.
Voilà.
qui n'a pas pesé pour rien dans l'indulgence dont on a fait preuve, un tout petit peu d'indulgence.
Exactement.
Voilà. Merci beaucoup, Philippe Montillet.
Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité.
À tous les auditeurs et auditrices, je donne rendez-vous donc dans 15 jours.
D'entendre au fil des pages dirigées par Benoît Mancheron, diffusé en direct sur Radio Courtoisie mercredi 13 mai 2026 de 10h à 11h et réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5€ par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9€ ou 6€ seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.